Première partie. Souvenirs d'enfance. 1. Premier souvenir. Quelqu'un peut-il préciser avec exactitude le moment de son existence où, pour la première fois, s'est élevé en lui le sentiment du « moi », la première lueur d'une vie consciente? Je voudrais le savoir, car pour moi, cela m'est impossible. Quand je recherche, pour les classer, mes premiers souvenirs, j'obtiens invariablement le même résultat. Ces souvenirs semblent se disperser devant moi. Voici une première impression dont la trace, me semble-t-il, est restée distincte dans ma mémoire. Mais si j'y arrête quelque temps ma pensée, d'autres impressions, remontant à des époques antérieures, s'en dégagent et en ressortent aussitôt. Je ne distingue même plus l'impression réellement éprouvée par moi, c'est-à-dire réellement mienne, de celles qui résultent de récits entendus de mon enfance et que je m'imagine avoir ressentis, alors qu'en réalité, je me rappelle seulement les récits qu'on m'en a faits. Je n'arrive même jamais à évoquer aucune de ces impressions primitives dans toute sa netteté et sans y mêler involontairement un détail étranger au moment même où ma pensée se concentre sur ce souvenir. Quoi qu'il en soit, voici l'image qui m'apparaît une des premières chaque fois que je cherche à me rappeler les premières années de mon existence. Les cloches sonnent, l'air est parfumé d'encens. La foule sort de l'église. Ma gnagna descend le parvis en me tenant la main et me protège avec soin contre la bousculade. « Prenez garde à l'enfant », répète-t-elle d'un ton suppliant à tous ceux qui se pressent autour de nous. Au sortir de l'église, nous voyons approcher un ami de ma bonne, un diacre ou un sous-diacre, à en juger par sa longue soutane. Il lui offre un pain béni. « Mangez-le à votre santé, » lui dit-il. « Et comment vous nomme-t-on, dites, ma gentille demoiselle ?» Je me tais et le regarde avec de grands yeux. « Quelle honte de ne pas savoir son nom, mademoiselle !» continue le diacre pour me taquiner. « Réponds, ma petite mère, » souffle ma bonne. « Dis, je m'appelle Sonia, et mon père est le général Krukovski. » J'essaye de répéter ces mots, maladroitement sans doute, car ma bonne et son amie se mettent à rire. L'ami de ma bonne nous accompagne jusqu'à la maison. Je les précède en sautillant et m'efforce de répéter les paroles de ma bonne que j'arrange à ma façon. Évidemment, le procédé est encore nouveau pour moi et je cherche à le graver dans ma mémoire. En approchant de la maison, le diacre me montre la porte d'entrée. « Voyez-vous ce crochet ?» en russe, « Krouk ». Sur la porte, petite demoiselle, me dit-il, quand vous oublierez le nom de votre papa, dites-vous, il y a un crook sur la maison de Krukovski, et aussitôt la mémoire vous reviendra. Eh bien, je regrette de le dire, ce mauvais calembour du diacre a fait époque dans ma vie. C'est l'ère à laquelle je rattache le calcul du nombre de mes années, le premier indice pour moi d'une notion précise de mon existence et de ma situation sociale. Je devais tout compte fait avoir 2 ou 3 ans, et la scène se passait à Moscou où je suis né. Mon père servait dans l'artillerie, et les devoirs de son exercice nous obligeaient souvent à nous transporter à sa suite d'un lieu à un autre. Après le souvenir de cette scène, distinctement conservée dans ma mémoire, vient une grande lacune. Sur un fond gris et terne, pareils à de légers points lumineux, ressortent divers petits épisodes de voyage. Des pierres ramassées sur la chaussée, des nuits passées dans des maisons de poste, la poupée de ma sœur jetée par la portière de la voiture, une série de tableaux sans liaison entre eux, mais assez vifs en couleurs. Mes souvenirs ne prennent un peu de suite qu'à partir de l'âge de 5 ans, lorsque nous demeurions à Kalouga. Nous étions 3 enfants, ma sœur Aniuta, mon aîné de 6 ans, et mon frère Fedia, de 3 années plus jeune que moi. Notre chambre d'enfant m'apparaît grande, mais basse. Gnagna, montée sur une chaise, en atteint facilement le plafond de sa main. Nous dormions tous les 3 dans cette chambre. On avait parlé de transporter Aniuta dans celle de la gouvernante française, mais ma sœur s'y refusa. Elle préférait rester avec nous. Nos petits lits, entourés de grillages, sont côte à côte. Nous pouvons grimper les uns chez les autres, le matin, sans mettre le pied par terre. Un peu plus loin est le grand lit de Nya Nya, sur lequel s'entassent les matelas de plumes, les oreillers et les édredons. C'est la gloire de Nya Nya. Quelquefois, quand elle est de bonne humeur, elle nous permet de jouer sur son lit dans la journée. Nous y montons alors au moyen de chaises, et, parvenus au sommet, la montagne s'effondre aussitôt sous notre poids, et nous plongeons dans une mer de duvet. Ce jeu nous paraît très amusant. Il me suffit de penser à notre chambre d'enfant pour évoquer, par une inévitable association d'idées, une odeur singulière, mélange d'encens, d'huile de lampe, de baume tranquille et de chandelle fumeuse. Cette odeur très spéciale, qui non seulement n'existe pas à l'étranger, mais qui doit même être devenue très rare à Moscou, avait cessé de me hanter lorsqu'en entrant il y a 2 ans chez une de mes amies dans la chambre de ses enfants à la campagne, je fus accueilli par ce parfum bien connu, ramenant à sa suite une série d'impressions et de sensations oubliées depuis longtemps. Notre gouvernante française ne peut entrer dans notre chambre sans porter avec dégoût son mouchoir à son nez. « Mais vous n'ouvrez donc jamais la fenêtre, Nya Nya ?» demande-t-elle en mauvais russe d'un ton plaintif. Nya Nya considère cette observation comme une injure personnelle. Voilà ce qu'elle imagine encore, la musulmane. « J'irai s'ouvrir la fenêtre pour rendre les enfants malades, » murmure-t-elle après le départ de la gouvernante. Ces escarmouches entre la bonne et la gouvernante se renouvellent ainsi très régulièrement chaque matin. Les rayons du soleil pénètrent depuis longtemps dans notre chambre. Nous, les enfants, ouvrons l'un après l'autre les yeux, mais nous ne sommes pas pressés de nous lever et de nous habiller. Entre notre réveil et notre toilette s'écoule un laps de temps considérable, employé à nous battre à coups d'oreiller, à lutter avec nos petites jambes nues et à dire beaucoup de folies. Un appétissant parfum de café se répand dans la chambre. Nya Nya, peu vêtue elle-même, et dont la première toilette consiste à échanger son bonnet de nuit contre un fichu de soie qui lui couvre invariablement la tête dans le courant de la journée, apporte un plateau chargé d'une grande cafetière de cuivre. C'est dans nos petits lits, sans nous laver ni nous peigner, qu'elle nous régale de café à la crème et de petits pains au beurre. Nous nous rendormons parfois après avoir mangé, fatigués par les jeux qui ont précédé le déjeuner. Mais voici la porte qui s'ouvre avec fracas, et sur le seuil apparaît mademoiselle en colère. « Comment, vous êtes encore au lit, Annette ? Il est presque 11 heures. Vous êtes de nouveau en retard pour votre leçon, » s'écrie-t-elle courroucée. « On ne doit pas dormir si longtemps. Je me plaindrai au général, » dit-elle en s'adressant à la bonne. « Eh bien, vas-y, plains-toi, vipère, » murmure Nya Nya quand la gouvernante est sortie, et longtemps après, elle grogne encore sans pouvoir se calmer. « Les enfants de la maison n'ont plus le droit de dormir leur content. » On sera en retard pour la leçon. En voilà un malheur. Eh bien, tu attendras, important personnage. » Cependant, tout en murmurant, Nya Nya sent qu'il faut se mettre à la besogne. Et si les préliminaires ont été longs, la toilette elle-même s'accomplit rapidement. Nya Nya nous passe une serviette mouillée sur la figure et les mains, donne 2 ou 3 coups de brosse à nos crinières ébouriffées, nous met nos petites robes, auxquelles il manque facilement quelques boutons, et nous voilà prêtes. Ma sœur se rend chez sa gouvernante pour prendre sa leçon. Mon frère et moi restons dans notre chambre. Nya Nya, que notre présence ne gêne nullement, soulève des nuages de poussière en balayant le plancher. Elle couvre nos petits lits de leur couverture, secoue ses propres édredons, et la chambre des enfants passe pour fête. Mon frère et moi jouons avec nos joujoux, assis sur un divan de toile cirée dont le crin s'échappe par poignées. Rarement on nous fait promener, et seulement lorsque le temps est beau, ou bien encore les jours de grande fête, quand Nya Nya nous conduit à l'église. Sa leçon terminée, ma sœur revient en courant. Sa gouvernante l'ennuie, elle s'amuse davantage chez nous, d'autant plus que Nya Nya reçoit des visites, des bonnes d'enfants ou des femmes de chambre, auxquelles on offre du café et qui racontent beaucoup de choses intéressantes. Quelquefois, maman entre un instant dans notre chambre. Mes souvenirs de cette époque me la montrent toujours toute jeune et très jolie. Je la vois gaie et parée, en toilette de bal généralement, décolletée, les bras nus, chargée de bracelets. Elle va dans le monde en soirée et entre nous dire bonsoir. Aussitôt qu'elle paraît sur le seuil de la porte, Anyuta s'élance au-devant d'elle, lui baise les mains et le cou et s'amuse à examiner ses bijoux. « Je veux être belle comme maman quand je serai grande, » dit-elle en se parant du collier et des bracelets de maman et en se haussant sur la pointe des pieds pour se mirer dans la petite glace qui pend au mur. « Maman s'amuse beaucoup. Moi aussi, j'ai parfois le désir de caresser ma mère, de grimper sur ses genoux, mais le plus souvent, ses essais tournent à ma honte. Tantôt je fais mal à maman, tantôt je déchire sa robe, et je me sauve confuse dans un coin pour me cacher. De là une certaine contrainte dans mes rapports avec ma mère, contrainte qui devient de la sauvagerie en entendant ma bonne répéter sans cesse qu'Anyuta et Fedia sont les préférés, et que je suis, moi, celle qu'on n'aime pas. Était-ce vrai? Je ne le sais pas. Toujours est-il que Nyanya le disait fréquemment, sans se trouver gênée de ma présence. Peut-être se l'imaginait-elle à cause de sa prédilection pour moi. Bien qu'elle nous eût élevés tous les trois, elle me considérait, je ne sais pourquoi, comme étant plus spécialement son élève, et s'offensait de ce qui lui paraissait une insulte envers moi. Anyuta, beaucoup plus âgée que nous, jouissait pour cette raison d'immunité particulière. Elle grandissait indépendante comme un cosaque et ne reconnaissait l'autorité de personne. L'entrée du salon lui était librement ouverte et elle s'y était acquis la réputation d'une charmante enfant qui savait amuser son monde tout en se permettant parfois des sorties et des observations fort impertinentes. Mon frère et moi ne paraissions dans les appartements de réception que rarement. Nous dînions et déjeunions généralement dans notre chambre. Quelquefois, quand il y avait du monde à dîner, Nastasia, la camériste de ma mère, entrait en courant au moment du dessert pour dire « Nyanya, mettez vite à Fedia son costume de soie bleue et menez-le dans la salle à manger. Madame veut le montrer aux invités. » « Et Sonia, comment faut-il l'habiller ?» demandait la bonne d'un ton bourru, prévoyant la réponse ordinaire. « On n'a pas besoin de Sonia, elle peut rester dans sa chambre, c'est notre petite solitaire. » répondait en riant la femme de chambre, qui savait que par sa réponse, elle mettait Nyanya en fureur. Nyanya voyait réellement une insulte pour moi dans ce désir de montrer Fedia seule. Et mécontente, elle marchait longtemps dans la chambre, grommelant entre ses dents et me jetant des regards de sympathie. « Pauvre chérie !» ajoutait-elle en me caressant la tête de sa main. Voici le soir. Nyanya nous a déjà mis au lit, mon frère et moi, mais n'a pas encore ôté l'invariable fichu qui couvre sa tête pendant la journée et dont la disparition marque le passage de la veillée au repos. Assise sur le divan, devant une table ronde, elle prend du thé en compagnie de Nastasia. La chambre est presque sombre. Seule la flamme jaunâtre d'une chandelle que Nyanya néglige de moucher ressort de cette demi-obscurité comme une tache claire, et dans l'angle opposé de la chambre, une petite lueur bleuâtre et vacillante projette sur le plafond de bizarres dessins et illumine vivement le Sauveur, dont la main semble sortir de l'icône argentée avec un geste de bénédiction. J'entends à mes côtés la respiration irrégulière de mon frère endormi, et dans le coin, près du poêle, le sifflement nasal de Féclouchat, le souffre-douleur de Nyanya, une petite fille au nez camu qui lui sert d'aide. Elle aussi dort dans la chambre des enfants, sur un lambeau de feutre gris qu'elle étend par terre le soir et qu'elle roule le jour dans un cabinet. Nyanya et Nastasia causent à voix basse, et, nous croyant profondément endormis, ne se gêne pas pour discuter les événements domestiques. Mais je ne dors pas du tout. Je m'applique au contraire à écouter ce qu'elles disent. Certaines choses m'échappent naturellement, d'autres ne m'intéressent guère, et il m'arrive de m'endormir au milieu d'un récit dont je n'apprends jamais la fin. Mais les lambeaux de conversation qui pénètrent jusqu'à mon entendement s'y gravent en forme fantastique et y laissent pour la vie d'ineffaçables traces. « Comment ne l'aurais-je pas aimé plus que les autres, ma petite colombe ?» dit Nyanya. « Et je comprends qu'il est question de moi. Ne l'ai-je pas, pour ainsi dire, élevée toute seule ? Personne n'y faisait aucune attention. Quant à Anyuta, nous aînés, le papa, la maman, le grand-papa, les tantes, n'avaient Dieu que pour elle, parce que c'était la première venue. On ne me donnait pas le temps de m'en occuper. C'était l'un, c'était l'autre qui la prenait dans les bras. Mais pour Sonia, quelle différence !» Ici, Nyanya, dans ce récit fréquemment répété, baissait mystérieusement la voix, ce qui m'obligeait à dresser d'autant plus l'oreille.
« Elle n'est pas née à propos, ma petite colombe, voilà la vérité !» continue Nyanya à voix basse.
Presque à la veille de sa naissance, notre Barine avait fait de grosses pertes de jeu au club anglais, si grosses qu'il fallut engager les diamants de madame. Était-ce le moment de se réjouir de la naissance d'une fille? D'autant que tous les deux désiraient un garçon. Le Barine me disait sans cesse « Tu verras, Nyanya, que ce sera un fils !» Tout était préparé pour un garçon. Une croix de baptême avec un crucifix, un bonnet avec des rubans bleus. Et puis, voilà encore une fille.
Madame en eut tant de chagrin qu'elle ne voulut pas la regarder. Ce n'est que Fédia qui plus tard les a consolés. Ce récit revenait souvent, et je l'écoutais toujours avec le même intérêt. Aussi s'est-il profondément gravé dans ma mémoire. Grâce à de semblables discours, la conviction de n'être pas aimé se développa de très bonne heure en moi, et l'ensemble de mon caractère s'en ressentit. Je devins de plus en plus sauvage et concentré. S'il arrivait qu'on m'appelât au salon, me voilà maussadement suspendu des deux mains au jupon de ma bonne. Impossible de me tirer un mot. Nyanya s'épuise en raisonnement. Je garde un silence obstiné, jetant à tout ce qui m'entoure des regards méfiants et hargneux, comme un petit animal traqué. Maman, contrariée, finit par dire à Nyanya « Eh bien, emmenez votre petite sauvage dans sa chambre. Elle nous fait honte devant le monde. Elle aura certainement avalé sa langue. » J'étais sauvage aussi avec les enfants que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, j'en voyais peu. Je me rappelle cependant que si nous rencontrions, dans nos promenades avec Nyanya, des enfants jouant à quelques jeux bruyants, le désir, l'envie de me joindre à eux me prenait souvent. Mais Nyanya ne me laissait jamais aller. « Y penses-tu, ma petite mère, une demoiselle comme toi, jouer avec des enfants des rues ?» disait-elle d'un ton de reproche si persuasif que je me sentais confuse de ses aspirations. Bientôt, d'ailleurs, le goût et presque la faculté de jouer avec d'autres enfants me passèrent. Je me rappelle mon embarras lorsqu'on m'amenait par hasard une petite fille de mon âge. Je ne savais que lui dire. Et je restais devant elle à penser « Va-t-elle bientôt s'en aller ?» Le comble du bonheur était de rester seul, en tête-à-tête avec ma bonne. Le soir venu, quand Fédia dormait, et qu'Anyuta se sauvait au salon avec les grandes personnes, je m'asseyais sur le divan près de Nyanya, bien serré contre elle, et elle me racontait des histoires. À la façon dont je les revois encore en songe, je puis juger des traces profondes qu'elles ont laissées dans mon imagination. Éveillée, je ne les retrouve que par fragments, mais endormie, je rêve encore de la mort noire, du loup-garou, du serpent à douze têtes, et ce rêve évoque en moi le même effroi indéfinissable qui m'étranglait à 5 ans lorsque j'écoutais les contes de ma bonne. C'est à cette époque de ma vie que commencèrent à se produire en moi d'étranges sensations, une impression d'inexprimable malaise, d'angoisse, dont le souvenir me reste très vif. Cette sensation m'envahissait généralement vers la chute du jour, si je restais seul dans une chambre. J'étais là, jouant parfois sans penser à rien. Soudain, en me retournant, il me semblait apercevoir, rampant vers moi de l'angle de la chambre ou de dessous le lit, une ombre noire, très nette de contour. Je sentais la présence d'une chose inconnue, nouvelle, et cette impression me serrait le cœur si péniblement que je m'élançais comme une flèche à la recherche de ma bonne, qui me calmait presque toujours. Quelquefois, cependant, cette angoisse se prolongeait pendant plusieurs heures. Beaucoup d'enfants nerveux éprouvent, je crois, des troubles analogues. On dit alors que l'enfant a peur de l'obscurité. L'expression est fausse, car cette sensation résulte moins de l'obscurité même que de l'envahissement progressif des ténèbres et des effets qui s'y rattachent. Je me rappelle avoir éprouvé des impressions du même genre dans des circonstances très différentes. Par exemple, si j'apercevais en promenade quelques grandes bâtisses inachevées, aux murailles de briques percées de trous en guise de fenêtres. Je l'éprouvais aussi en été, si, couché à terre sur le dos, je regardais le ciel sans nuages au-dessus de ma tête. D'autres signes de grande nervosité se manifestèrent encore en moi, et surtout une répulsion pour toute difformité physique allant jusqu'à la terreur. Il suffisait de parler devant moi d'un poulet à deux têtes ou d'un veau à trois pattes pour me faire frissonner et me donner le cauchemar la nuit suivante. Je réveillais alors ma bonne par des cris perçants. Il me semble voir encore un homme à trois jambes qui m'a poursuivi en rêve pendant mon enfance. La vue d'une poupée cassée m'épouvantait. Nyanya devait ramasser ma poupée quand je la laissais tomber pour me dire si elle était intacte et dans le cas contraire l'emporter bien vite. Je vois encore le jour où Anyuta, m'ayant trouvé seul, s'amusa pour me taquiner à me mettre de force sous les yeux une poupée de cire dont l'œil noir pendait hors de l'orbite. Je fus prise de convulsions. J'étais en voie de devenir une enfant nerveuse et maladive, mais bientôt mon entourage changea et ces conditions fâcheuses cessèrent. 2. Fée Cloucha. J'avais environ 6 ans quand mon père prit sa retraite et s'installa dans sa terre patrimoniale de Palibino, dans le gouvernement de Vitebsk. On parlait déjà avec persistance d'émancipation. C'est ce qui décida mon père à s'occuper plus sérieusement de ses terres, qui, jusque-là, n'avaient eu d'autre administration que celle d'un régisseur. Peu après notre arrivée à la campagne, un événement survenu dans la maison m'est resté vivement empreint dans la mémoire. L'impression du reste fut si vive pour tous, on en parla si souvent, que mes souvenirs personnels et les récits qu'on me fit plus tard se confondent au point de ne plus distinguer les uns des autres. Je raconterai donc le fait tel qu'il m'apparaît aujourd'hui. On s'aperçut tout à coup que certains objets disparaissaient de notre chambre d'enfant. Une chose d'abord, puis une autre. Si Nyanya perdait de vue quelque objet pendant un certain temps et qu'elle se trouvât en avoir besoin, l'objet était introuvable, bien que Nyanya fût prête à jurer qu'elle-même l'avait serré de ses propres mains dans l'armoire ou dans la commode. On n'y attacha pas grande importance au commencement. Mais quand ces disparitions se répétèrent et qu'elles s'étendirent à des objets de quelque valeur, tels qu'une cuillère d'argent, un dé d'or, un canif en nacre, l'inquiétude devint générale. Nous avions un voleur parmi nous, c'était évident. Nyanya s'alarma plus que personne, car elle se considérait comme responsable de ce qui appartenait aux enfants. Elle prit la ferme détermination de découvrir à tout prix le coupable. Les soupçons devaient naturellement se porter tout d'abord sur l'infortunée fée Cloucha, la petite fille préposée au service de notre chambre. Il est vrai que Nyanya n'avait rien eu à lui reprocher depuis 3 ans qu'elle faisait notre service. Mais selon Nyanya, cela ne signifiait pas grand-chose. Elle était petite autrefois et ne connaissait pas la valeur des objets. Maintenant qu'elle a grandi, elle la comprend mieux. D'ailleurs, sa famille demeure au village, près de nous. C'est là qu'elle porte le bien volé. Ainsi raisonnait Nyanya, et fondant là-dessus ses convictions intimes, elle se persuada de la culpabilité de Fée Cloucha, la traita durement et sévèrement, si bien que la pauvre petite, effrayée, et sentant instinctivement les soupçons planer sur elle, prit un air de plus en plus coupable. Mais quelle que fût la surveillance de Nyanya, elle ne put de longtemps la trouver en défaut. Cependant, les objets perdus ne se retrouvaient pas, et d'autres venaient encore de disparaître. Un beau jour, la tirelire d'Anyuta, gardée par Nyanya dans son armoire et contenant 40 roubles, si ce n'est plus, ne se retrouva pas. Mon père lui-même fut informé de cette nouvelle perte. Il fit venir Nyanya et donna sévèrement l'ordre de rechercher le voleur. Chacun comprit qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Nyanya était au désespoir. Mais voici qu'une nuit, en se réveillant, elle entend dans le coin où dormait Fée Cloucha un petit bruit de mâchoire, comme quelque chose qu'on avalerait. Nyanya, prête à tous les soupçons, étend doucement la main vers les allumettes et allume subitement la bougie. Que voit-elle? Fée Cloucha, accroupie, la bouche pleine, tient entre les genoux un grand pot de confiture dont elle nettoie les bords avec une croûte de pain. Il faut ajouter que la femme de charge s'était plainte quelques jours auparavant de la disparition de ses confitures à l'office. Sauter du lit et saisir la coupable par les cheveux fut naturellement pour Nyanya l'affaire d'une seconde. « Je t'y prends, vaurienne. D'où viennent ces confitures? Réponds. cria-t-elle d'une voix tonnante en secouant l'enfant sans miséricorde.
Gna gna, ma colombe, je ne suis pas coupable.
Vrai, suppliait Féclusha.
C'est la couturière, Marie Vassilievna, qui m'a donné ce pot hier au soir. Elle m'a seulement recommandé de ne pas vous le montrer.
Cette excuse parut ridiculement invraisemblable à gna gna.
Tu ne sais même pas mentir, petite mère, dit-elle avec mépris. Quelle vraisemblance y a-t-il que Marie Vassilievna aille te régaler de confiture ?
Gna gna, ma colombe, je ne mens pas. Vrai, c'est ainsi. Demandez-le lui à elle-même. Je lui ai chauffé ses fers hier soir, et pour cela elle m'a donné ses confitures. Seulement, ne les montre pas à la gna gna, a-t-elle ordonné, car elle me gronderait de te gâter, continuait à protester Féclusha.
C'est bon, nous verrons cela demain matin, décida la bonne, et en attendant, elle enferma Féclusha dans le cabinet noir, d'où ses sanglots retentirent longtemps.
Le lendemain, on commença l'enquête. Marie Vassilievna, une couturière qui vivait chez nous depuis des années, était une affranchie, et jouissait parmi les domestiques d'une grande considération. Elle avait une chambre à elle, et y mangeait des mets apportés de la table des maîtres. Hautaine avec son entourage, elle ne se familiarisait avec personne. Chez nous, on l'appréciait fort, car elle était habile dans son art, et on disait d'elle « Ses mains sont de l'or ». Elle pouvait avoir une quarantaine d'années. Son visage était maigre et maladif, ses yeux noirs et démesurément grands. Elle n'était point belle, mais je me rappelle que les grandes personnes lui trouvaient quelque chose de distingué. Elle n'avait pas l'air d'une simple couturière. Habillée soigneusement et proprement, elle tenait sa chambre non seulement avec ordre, mais encore avec une certaine prétention à l'élégance. Sur sa fenêtre fleurissaient plusieurs pots de géranium, des gravures à bon marché étaient pendues au mur, et sur une tablette, dans un coin de la chambre, on voyait de petits bibelots de porcelaine, objets de mon admiration enfantine, tels qu'un cygne au bec doré et une petite pantoufle formée de boutons de rose. Pour nos autres enfants, Marie Vassilievna excitait encore un intérêt spécial à cause d'une histoire dont elle était l'héroïne. Elle avait été belle et bien portante dans sa jeunesse et appartenait comme serve à une vieille dame dont le fils était officier. Celui-ci vint une fois en congé et fit cadeau à Marie Vassilievna de quelques pièces d'argent. Par malheur, la vieille dame entra au même moment dans la chambre et, voyant cet argent dans les mains de la jeune fille, demanda « Où l'as-tu pris ?» Sur quoi, au lieu de répondre, Marie Vassilievna, effrayée, avala l'argent. Là-dessus, elle se trouva mal et tomba à terre suffoquée. Elle resta longtemps malade, on la sauva à grand-peine, et elle perdit à jamais sa beauté et sa fraîcheur. La vieille dame mourut bientôt après cette aventure, et le jeune maître donna la liberté à Marie Vassilievna. Cette histoire d'argent avalé nous frappait vivement, et nous tourmentions la couturière pour nous la faire raconter. Elle venait assez souvent dans notre chambre, quoiqu'elle ne vécût pas en très bons termes avec gna gna. Et nous aimions à aller chez elle, surtout au crépuscule, lorsqu'elle mettait forcément son ouvrage de côté. Alors, assise sur le rebord de la fenêtre, la tête appuyée sur sa main, elle entonnait d'une voix plaintive d'anciennes romances mélancoliques. J'aimais ce chant, quoiqu'il me remplit de tristesse. Elle s'interrompait parfois, prise d'un violent accès de toux, qui me paraissait devoir rompre sa poitrine plate et sèche. Elle souffrait de cette toux depuis longtemps. Le lendemain, après l'épisode de Féclusha, lorsque gna gna interrogea Marie Vassilievna pour éclaircir l'affaire des confitures, celle-ci répondit d'un air étonné, ainsi qu'on devait s'y attendre, « Y pensez-vous, gna gna ? Pourquoi irais-je ainsi gâter cet enfant ? Je n'ai même pas de confiture pour moi. » Et elle prit un ton offensé. La chose était claire, et cependant l'effronterie de Féclusha fut telle que, malgré cette dénégation catégorique, elle continua ses protestations.
« Marie Vassilievna, le Christ soit avec vous. Est-il possible que vous ayez oublié ? Mais hier au soir, vous m'avez appelé, vous avez trouvé les fers bien chauffés, et vous m'avez donné les confitures, disait-elle désespérée, d'une voix entrecoupée de larmes et toute secouée de frissons, comme dans la fièvre.
« Tu es malade, et tu divagues sans doute, Féclusha, répondit tranquillement Marie Vassilievna.
et son visage exsangue et pâle ne révélait pas la plus légère agitation. La culpabilité de Féclusha ne fit dès lors aucun doute pour Nyanya et les autres domestiques. La coupable fut enfermée, loin de tous, dans le cabinet noir. « Reste là, petite misérable, sans boire ni manger, jusqu'à ce que tu reconnaisses ta faute, » dit Nyanya en tournant la clé dans le lourd cadenas. Cet événement fit naturellement grand bruit dans la maison. Chacun, sous un prétexte quelconque, vint discuter avec Nyanya ce sujet palpitant. Notre chambre d'enfant eut toute la journée l'apparence d'un club. Féclusha n'avait plus de père, sa mère vivait au village, mais venait chez nous aider à la buanderie. Elle apprit bientôt ce qui se passait et accourut dans notre chambre, se répandant en plaintes et en protestations sur l'innocence de sa fille. Nyanya la calma. « Nous saurons tantôt où ta fille cachait les objets volés, » dit-elle d'un air sévère, et avec un regard si significatif que la pauvre femme épouvantée s'en retourna bien vite chez elle. L'opinion publique se prononçait décidément contre Féclusha. « Si elle a volé les confitures, elle a aussi volé le reste, » disait-on. L'indignation générale était d'autant plus grande que le poids de ces mystérieuses disparitions avait lourdement pesé sur tous. Au fond du cœur, chacun craignait d'être soupçonné, et la découverte du voleur fut un grand soulagement. Cependant, Féclusha n'avouait toujours pas. Nyanya fit plusieurs visites à sa prisonnière dans le courant de la journée, mais celle-ci répétait la même chose. « Je n'ai rien volé. Dieu punira Marie Vassilievna de calomnier une orpheline. » Maman entra vers le soir dans notre chambre. « N'êtes-vous pas trop sévère pour cette malheureuse petite, Nyanya? Comment pouvez-vous la laisser ainsi toute la journée sans nourriture ? » dit-elle d'une voix inquiète. Mais Nyanya ne voulait pas qu'on lui parlât de pitié. « Y pensez-vous, madame, avoir pitié d'une fille semblable ? Mais la misérable a presque fait soupçonner d'honnêtes gens, » dit-elle avec une telle assurance que maman n'eut pas le courage d'insister et s'en retourna sans avoir obtenu le moindre adoucissement au sort de la pauvre petite criminelle. Le jour suivant, Féclusha n'avouait toujours pas. Ses juges commençaient à s'émouvoir, lorsque tout à coup, vers l'heure du dîner, Nyanya entra d'un air triomphant dans la chambre de ma mère. « Notre oiseau a tout avoué, » dit-elle, rayonnante. « Eh bien, où sont les objets volés ?» demanda naturellement ma mère. « Elle ne le confesse pas encore, la vaurienne, » répondit Nyanya d'une voix préoccupée. Elle dit toutes sortes de bêtises. Elle prétend qu'elle a oublié. Mais attendez qu'elle ait encore passé sous clé une heure ou deux, la mémoire lui reviendra peut-être. Effectivement, le soir venu, Féclusha fit des aveux complets et raconta avec force détails à l'appui comment elle avait volé les objets, ayant l'intention de les vendre quand cela lui serait possible. Comment, faute d'occasion favorable, elle les avait longtemps tenus cachés sous le lambeau du feutre qui lui servait de lit dans un coin du cabinet. Comment, s'étant aperçue qu'on recherchait activement le voleur, les objets perdus ne se retrouvant pas, elle avait pris peur et songé d'abord à les remettre à leur place, puis, craignant de se découvrir, les avait noués dans un de ses tabliers pour les jeter dans un étang très profond situé derrière la maison. On souhaitait si vivement sortir de cette fâcheuse affaire que le récit de Féclusha ne fut pas soumis à une critique bien sévère. Après avoir un peu regretté des objets si inutilement perdus, chacun se contenta de l'explication donnée par l'enfant. La coupable fut tirée de prison et passée en jugement. La sentence fut aussi équitable que sommaire. On condamna Féclusha à être fouettée et à retourner chez sa mère au village. Et malgré les larmes de Féclusha et les protestations de sa mère, la sentence fut aussitôt exécutée. Une autre petite fille remplaça la voleuse à notre service. Quelques semaines se passèrent, l'ordre se rétablit peu à peu dans la maison, et on commençait à oublier l'affaire. Mais un soir, sur le tard, tout le monde dans la maison s'étant retiré, et Nyanya, après nous avoir couchés, se préparant aussi au repos, voilà la porte de notre chambre qui s'entr'ouvre doucement, et sur le seuil, paraît la blanchisseuse Alexandra, la mère de Féclusha. Elle seule se refusait à l'évidence et s'obstinait à prétendre qu'on avait gratuitement insulté sa fille.
Il en était résulté de vives escarmouches avec Nyanya, qui, à bout de patience, avait fini par lui interdire l'entrée de notre chambre, déclarant qu'on ne pouvait faire entendre raison à cette sotte. Cependant, elle avait ce jour-là un air si étrange et si important que Nyanya, en la voyant, comprit aussitôt qu'elle ne venait pas répéter ses doléances oiseuses, mais qu'il s'agissait d'un fait nouveau et sérieux. « Regardez, Nyanya, ce que je vous apporte, » dit Alexandra mystérieusement. Et après s'être assurée que personne ne pouvait la voir, elle tira de la poche de son tablier et tendit à la bonne le canif de nacre, celui que nous regrettions et qui devait se ranger parmi les objets volés et censément jetés dans l'étang par Féclucha. À cette vue, Nyanya leva les bras au ciel. « Où l'avez-vous trouvé ? » demanda-t-elle avec surprise. « Où je l'ai trouvé ? C'est précisément là l'affaire, » répondit lentement Alexandra. Elle s'arrêta quelques secondes pour jouir du trouble de Nyanya. Le jardinier Philippe Matveïtch m'a donné un vieux pantalon à raccommoder, et c'est dans la poche de ce pantalon que se trouvait ce canif, dit-elle enfin avec importance. Ce Philippe Matveïtch était allemand et célibataire. Il occupait une situation considérable dans l'aristocratie de notre domesticité, recevait de gros gages et passait, dans la partie féminine de notre maison, pour un bel homme. Bien qu'à le considérer de sang-froid, il ne fut guère qu'un gros homme, pas jeune, assez déplaisant et orné de lourds favoris carrés. Cette étrange révélation plongea d'abord Nyanya dans la stupeur. Comment Philippe Matveïtch a-t-il pu prendre le canif des enfants ? Demanda-t-elle déconcertée. Il n'entre pour ainsi dire jamais ici. Et d'ailleurs, est-il vraisemblable qu'un homme comme Philippe Matveïtch vole les affaires des enfants ? Alexandra considéra Nyanya un instant en silence d'un œil moqueur. Puis elle se pencha vers son oreille et murmura quelques phrases dans lesquelles le nom de Marie Vassilievna revenait souvent. Un rayon de vérité commençait à pénétrer dans l'esprit de Nyanya. « Ta, 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 c'est comme cela, » murmura-t-elle en agitant les bras. « Ah, la mauvaise ! Ah, l'hypocrite ! Attends, nous t'exposerons au grand jour !» s'écria-t-elle, débordant d'indignation. Ainsi qu'on me le raconta plus tard, il paraît qu'Alexandra soupçonnait Marie Vassilievna depuis longtemps. Elle avait remarqué qu'elle faisait des avances au jardinier. « Et jugez vous-même, » disait-elle à Nyanya, « un beau garçon comme Philippe Matveïtch irait-il s'éprendre gratuitement de cette vieille fille ? Elle l'aura attirée par des cadeaux. » Alexandra s'était bientôt convaincue que la couturière portait au jardinier des cadeaux et de l'argent. D'où les prenait-elle ? Alexandra établit autour de Marie Vassilievna tout un système d'espionnage dont celle-ci ne se doutait pas. Le canif n'était qu'au bout d'une longue chaîne d'observations. L'histoire devenait plus intéressante qu'on aurait pu s'y attendre. Un instinct de policier s'éveilla très vif en Nyanya, comme il arrive aux vieilles femmes qu'on voit parfois se jeter avec témérité dans des enquêtes compliquées qui ne les concernent en rien. Dans le cas présent, du reste, Nyanya était poussée par le remords d'avoir accusé Féclucha et le brûlant désir de la réhabiliter. Une ligue offensive et défensive contre Marie Vassilievna fut donc conclue entre elle et Alexandra. Les deux femmes étaient moralement convaincues de la culpabilité de la couturière. Elles se résolurent à une mesure extrême, trouver ses clés et profiter d'un moment où elle s'absenterait pour ouvrir son coffre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hélas, les soupçons n'étaient que trop fondés. Le contenu du coffre les confirma tous et prouva d'une façon indiscutable que la malheureuse Marie Vassilievna était l'auteur de tous les vols domestiques dont le scandale avait été si grand. Quel misérable ! C'est pour porter les soupçons sur la pauvre Féclucha qu'elle lui aura donné des confitures. Faut-il ne pas croire en Dieu pour n'avoir pas même pitié d'un enfant ? Disait Nyanya avec horreur et dégoût, oubliant complètement son propre rôle dans cette histoire, et comment, par son excessive sévérité, elle avait poussé la pauvre Féclucha à se calomnier elle-même. Il serait difficile de peindre l'indignation générale quand la terrible vérité fut dévoilée et connue de tous. Mon père menaça d'abord de faire saisir Marie Vassilievna par la police pour la mettre en prison. Mais il s'adoucit bientôt
et par égard pour son âge, sa mauvaise santé, ses longs services, il résolut simplement de la renvoyer à Pétersbourg. On aurait pu s'attendre à voir Marie Vassilievna elle-même satisfaite de cette décision, car avec son talent de couturière, elle pouvait facilement gagner sa vie à Pétersbourg. Et quelle situation chez nous serait la sienne après cette aventure? Jalousée des autres domestiques, haïe pour sa fierté, pour sa hauteur, et s'en rendant du reste parfaitement compte, combien cruellement ne lui ferait-on pas expier ses grandeurs passées? Et cependant, quelque bizarre que cela paraisse, non seulement elle ne fut pas satisfaite, mais elle implora sa grâce avec instance. Elle tenait à notre maison, au coin qu'elle habitait, avec un attachement de chat. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Je sens que je mourrai bientôt. Comment, avant de mourir, pourrais-je traîner ma vie au milieu d'étrangers, disait-elle. Plus tard, lorsque je fus grande fille, Niania, se rappelant avec moi cette histoire, m'expliqua la chose autrement. C'est qu'elle n'avait pas la force de nous quitter à cause de Philippe Matveïtch, qui restait, lui. Elle savait bien qu'une fois partie, elle ne le reverrait plus. Il faut croire qu'elle l'aimait beaucoup, puisqu'ayant honnêtement vécu toute sa vie, elle s'était ainsi perdue sur le tard grâce à lui. Quant au jardinier, il réussit à se tirer de l'eau sans se mouiller. Peut-être disait-il vrai, en assurant qu'il ignorait la provenance des cadeaux que lui faisait Marie Vassilievna. En tout cas, on le garda, les bons jardiniers étant rares, et le potager ne pouvant être abandonné. Je ne sais si Niania avait raison au sujet des sentiments de Marie Vassilievna. Toujours est-il que, le jour fixé pour son départ, elle vint se jeter aux pieds de mon père. « Privez-moi de mes gages, traitez-moi comme votre esclave, mais ne me chassez pas, disait-elle en sanglotant. » Mon père fut touché de cet attachement à notre maison, mais il craignit l'action démoralisatrice de ce pardon sur les autres domestiques. Pour sortir de cette difficulté, il imagina la combinaison suivante. « Écoutez, dit-il à la couturière, le vol est un grand péché. Cependant, j'aurais pu vous pardonner si vous n'aviez fait que voler. Mais une petite innocente a souffert à cause de vous. Songez que Féclusha a été fouettée publiquement et, par votre faute, exposée à une grande honte. C'est là ce que je ne puis vous pardonner. Si vous tenez absolument à rester chez nous, que ce soit à condition de demander pardon à Féclusha et de lui baiser la main en présence de tous. Si vous y consentez, restez avec la grâce de Dieu. » Personne ne s'attendait à voir Marie Vassilievna accepter de pareilles conditions. Comment cette orgueilleuse savourait-elle coupable publiquement devant une petite serve? Comment lui baiserait-elle la main? Au grand étonnement de tous, Marie Vassilievna s'exécuta. Une heure après, tous les domestiques étaient rassemblés dans le vestibule pour assister à cet étrange spectacle. Marie Vassilievna baisant la main de Féclusha. Mon père exigeait que l'expiation fût publique. Il y avait foule. Les maîtres étaient présents, et nous autres enfants avions obtenu la permission d'assister aussi à la cérémonie. Jamais je n'oublierai cette scène. Féclusha, confuse de cet honneur inattendu, craignant peut-être aussi que Marie Vassilievna ne se vengeât plus tard de cette humiliation forcée, vint supplier le barin de la dispenser du baisement de main. « Je lui pardonne tout de même, » disait-elle presque en pleurant. Mais papa était monté à un diapason si élevé qu'il croyait agir selon la plus stricte justice. Il renvoya l'enfant en lui criant « Petite sotte, de quoi te mêles-tu? Crois-tu donc qu'il soit question de toi? Si moi, ton maître, je t'avais fait tort, je devrais aussi te baiser la main. Tu ne comprends pas cela? Eh bien, tais-toi alors et ne raisonne pas. » Féclusha, épouvantée, n'osa plus ouvrir la bouche et, tremblante de frayeur, s'en retourna à sa place comme une coupable dans l'attente de ce qui allait se passer. Marie Vassilievna, pâle comme un linge, s'avança à travers la foule qui s'ouvrait devant elle, marchant comme une automate ou une somnambule, mais d'un air si résolu et si méchant qu'elle faisait peur. Ses lèvres blanches étaient convulsivement serrées. Elle s'approcha tout près de Féclusha. « Pardonne-moi, dit-elle. » Et ces mots furent presque un cri de douleur.
Elle saisit la main de la petite pour la porter à ses lèvres par un geste si violent et une expression si haineuse qu'on aurait cru qu'elle voulait la mordre. Mais tout à coup, son visage se convulsa, l'écume parut sur ses lèvres et elle tomba à terre en poussant des cris qui n'avaient rien d'humain. On apprit alors qu'elle était sujette à des crises nerveuses, presque à des crises d'épilepsie, dissimulées avec soin au maître. Elle craignait de n'être pas gardée si l'on venait à les découvrir. Ceux, parmi les domestiques qui connaissaient son mal, ne l'avaient pas trahi par un sentiment de solidarité. Ce qui me frappa le plus fut la transformation subite qui s'opéra dans l'esprit des domestiques. Jusque-là, Marie Vassilievna avait été considérée avec haine et envie, et sa mauvaise action était si noire que chacun éprouvait un certain plaisir à lui faire quelque affront. Tout cela disparut subitement. On ne vit plus en elle qu'une malheureuse victime, et la sympathie générale lui fut acquise. Une sourde protestation s'éleva dans la maison contre mon père et l'excessive sévérité de sa sentence. « Bien sûr, elle était coupable », disaient à demi-voix les servantes réunies en conseil chez Nyanya, ainsi que cela se passait après chaque incident survenu dans la maison. Eh bien, le barine pouvait la gronder lui-même, ou la barina la punir de ses propres mains, comme on le fait dans d'autres maisons, cela peut s'accepter. Mais qu'a-t-on inventé? Baiser la main de cette morveuse? Qui pourrait supporter une pareille insulte? Marie Vassilievna resta longtemps privée de connaissance. Une crise succédait à l'autre, il fallut faire venir le médecin. La sympathie pour la malade croissait de minute en minute, aussi bien que l'indignation contre les maîtres. Je me rappelle que, dans le courant de la journée, ma mère entra dans notre chambre et, voyant Nyanya occupée à préparer du thé à une heure insolite, lui demanda innocemment « Pour qui ce thé, Nyanya ?»« Pour Marie Vassilievna, naturellement. Faudrait-il, selon vous, la laisser malade et privée de thé? Nous autres, domestiques, avons l'âme chrétienne. » Sur un ton si grossier et si courroucé que maman, toute confuse, se hâta de quitter la chambre. Et cette même Nyanya, cependant, si on l'avait laissée faire, aurait été capable, quelques heures auparavant, de battre Marie Vassilievna presque jusqu'à la mort. Au bout de quelques jours, et à la grande joie de mes parents, la couturière se rétablit et reprit son train de vie habituel. On ne lui parla plus du passé. Je ne crois pas que parmi les domestiques, on le lui ait jamais reproché. Quant à moi, elle m'inspira depuis lors une pitié mêlée d'effroi. Je n'entrai plus, en passant, dans sa chambre, comme autrefois. Si je la rencontrais dans le corridor, je me serrais involontairement contre le mur sans la regarder. Il me semblait toujours qu'elle allait tomber à terre en poussant de grands cris. Marie Vassilievna remarquait sans doute mon aversion pour elle et cherchait de toute façon à rétablir nos anciens rapports. Elle inventait chaque jour quelques nouvelles surprises. Une robe pour ma poupée, des chiffons de couleur. Rien n'y faisait. Je ne pouvais me défendre d'un sentiment de secrète terreur toutes les fois que je restais seul avec elle, et bien vite je me sauvais. Bientôt, du reste, je passais sous la direction de ma nouvelle institutrice qui mit fin à mon intimité avec les domestiques. Je me rappelle toutefois très vivement la scène suivante. J'avais 7 ou 8 ans. Un jour de fête, c'était, je crois, la veille de l'Ascension, je passais le soir en courant devant la porte de Marie Vassilievna. Celle-ci l'entr'ouvrit tout à coup et m'appela. « Mademoiselle, hé, mademoiselle, entrez voir la jolie alouette en pâte que je viens de faire pour vous. » Le long corridor était à moitié sombre et nous nous trouvions seuls, la couturière et moi. Je jetai un regard sur son visage pâle, aux grands yeux noirs, et dans mon trouble, au lieu de répondre, je m'enfuis à toutes jambes. « Vous ne m'aimez plus, mademoiselle, je le vois bien. Vous n'avez plus que de l'aversion pour moi, » dit-elle. Je continuai ma course sans m'arrêter, mais le ton dont elle prononça ces paroles, plus que les paroles elles-mêmes, m'impressionna. Rentrée dans ma chambre d'étude et remise de ma frayeur, le son de cette voix sourde et triste me poursuivait encore. Je fus mal à l'aise toute la soirée. J'avais beau m'exciter à des jeux turbulents pour calmer le sentiment de pénible anxiété qui me troublait le cœur, je ne parvenais pas à chasser le souvenir de Marie Vassilievna. Et comme il arrive toujours quand on se sent des torts envers quelqu'un, mon imagination me la dépeignit si bonne
que je me sentis invinciblement attiré vers elle. Je n'osais rien dire à mon institutrice. Les enfants n'osent guère parler de leurs sentiments. J'étais sûr d'ailleurs qu'elle aurait approuvé mon aversion pour la couturière, car toute intimité avec les domestiques nous était défendue. Après le thé du soir, au moment d'aller me coucher, je résolus d'entrer chez Marie Vassilievna au lieu de me rendre directement à ma chambre. C'était une sorte de sacrifice, car il fallait parcourir toute seule le long corridor sombre et vide à cette heure dont j'avais si grand peur et que j'évitais le soir. Prise d'un courage désespéré, je courus, retenant ma respiration, et me précipitai toute haletante dans la chambre comme un coup de vent. Marie Vassilievna avait déjà soupé à cause de la fête du lendemain. Elle ne travaillait pas et, assise devant une petite table proprement recouverte d'une serviette blanche, lisait quelques livres de dévotion. Une petite lampe brûlait devant les saintes images. Cette chambrette me semblait un asile clair et charmant, après l'effrayant corridor sombre, et celle qui l'occupait me parut douce et bonne. « Je suis venu vous dire bonsoir, ma chère, chère Marie Vassilievna, » m'écriai-je sans reprendre haleine. Et je n'avais pas fini qu'elle me tenait déjà entre ses bras et me couvrait de baisers. Elle m'embrassa si longtemps et avec tant de vivacité que le trouble me reprit, accompagné de la crainte de l'offenser si je m'arrachais à son étreinte. Un violent accès de toux lui fit enfin lâcher prise. Cette toux affreuse devenait de plus en plus violente. « J'ai aboyé toute la nuit comme un chien, » disait-elle quelquefois avec une sombre ironie. Chaque jour, elle devenait plus pâle, plus renfermée en elle-même. Elle refusait obstinément l'offre de ma mère de faire venir un médecin, s'irritait même de la moindre allusion à sa maladie. Elle vécut ainsi encore 2 ou 3 ans, debout presque jusqu'à la fin. Elle ne prit le lit que peu de jours avant de mourir. Son agonie, dit-on, fut terrible. Mon père lui fit faire des obsèques solennelles, autant du moins qu'elle pouvait l'être à la campagne. Toute la famille, le baril y compris, assista aux funérailles. Féklucha marchait derrière le cercueil, pleurant à chaudes larmes. Philippe Matveïtch n'était pas là. Quelques semaines avant la mort de Marie Vassilievna, il nous avait quittés pour une situation meilleure, aux environs de Dunabourg.